cannot be defeated. We have never been defeated. My people will come to your planet and inhabit the bodies of other dead Earthmen. The dead will kill the living, and the people of Earth will cease to exist. That is the message you will bring your people.
C'est dark, c'était pas prévu là, cette petite intervention de notre ami là qui disait des trucs. J'ai pas trop entendu ce qu'il disait d'ailleurs. Vous aurez les sous-titres au podcast. Perche 3000, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Galère, c'est un plaisir de vous retrouver, je tiens à m'excuser auprès des millions et des milliards d'auditeuristes qui nous écoutent et qui se sont dit mais merde, qu'est-ce qui s'est passé, ils étaient là dimanche dernier, ils étaient là dimanche d'avant, ils étaient là dimanche encore avant, et même peut-être le dimanche d'encore avant ils étaient là encore déjà, et ils n'entendaient pas Perche 3000. Voilà, ils voulaient se prendre une petite perche et ben ils ont pas pu. N'oublions pas que la perche est un poisson qu'on peut retrouver notamment dans le Nil, mais pas que. D'ailleurs, il y a plusieurs types de perches dans plusieurs types d'océans et plusieurs types de rivières. N'oublions jamais ça. Perche 3000, c'est une émission en direct un dimanche sur deux, sauf quand les auditeurs sont déçus et qu'en fait il n'y a pas l'émission. Je faisais une petite blague en début d'émission, t'as suivi, t'as la rêve, tout ça. Et ben voilà, ça faisait longtemps que j'étais pas venu faire l'émission et c'est un grand plaisir d'être là avec vous ce soir. Moi je suis bien entouré là, je suis prêt. J'ai rien préparé mais je suis quand même prêt. Le principe de l'émission, c'est déjà de ne pas préparer les émissions. Donc ça, c'est un premier principe. Et le deuxième principe, c'est de faire des trucs un peu chelous. D'où probablement la musique que vous entendez derrière vous. Et ce soir, on va faire une expérience. On va faire une expérience cognitivo-radiophonique, on va dire. Apprêtez-vous, mesdames et messieurs. Je pense que vous n'êtes pas tout à fait prêts. Si vous restez avec nous, je vous garantis qu'on sera un peu moins con dans quelques minutes. Le principe de ce soir, ça va être essayer d'apprendre des trucs. Parce que je voulais faire une grosse dédicace dans cette émission. Je vais pas dire un blaze, parce qu'après, ça la fout mal, les gens ils sont là, on m'a dédicacé un truc à la radio, nanani. Mais en tout cas, je voulais vous parler d'un bouquin qu'on m'a conseillé, ou d'un écrit, je sais pas comment on dit. En fait, c'est une fanfiction qui s'appelle « Les méthodes de la rationalité ». Je vous en reparlerai dans cette émission, mais du coup, ça m'a fait penser à « Les méthodes de la rationalité ». On va essayer de faire fonctionner nos cerveaux ce soir. Et voilà. Et donc, on va parler de chourer des trucs, on va improviser des machins, et on va aussi parler de la plus grande réalisation de l'histoire de l'humanité dans son ensemble. Voilà, bienvenue dans Perche 3000, si vous nous rejoignez, vous êtes sur la bonne antenne, sur la bonne fréquence, la bonne semaine, parce que c'est pas gagné non plus. Calez-vous, mettez-vous bien dans les bouchons, vous mettez votre casque sur les oreilles, je vous embarque. Ouais. Corvidés, le corvidé, c'est la famille des corbeaux. Et on parle pas du vol avec les ailes. On parle du vol qu'on punit. Pas que la loi punit, c'est sévèrement. Et que la morale, nous dit que c'est pas bien. Voilà, c'est mal. C'est mal de voler. Mais les corvidés, eh ben, c'est des pilleurs, c'est des voleurs. Si l'on en croit la presse, des corbeaux ont commis une série de larcins au début des années 2000 à la station-service de Membury sur l'autoroute M4 en Angleterre. Et dans chaque cas, les événements qui ont suivi à peu près le même déroulé, deux corbeaux freux postés de chaque côté du haut d'une poubelle qui travaillaient en tandem. Ils remontaient dans un premier temps un sac plastique à l'aide de leur bec. Ils l'ont retenu dans leur serre avant de replonger la tête pour continuer à tirer le sac avec le bec et ainsi de suite. Et après avoir répété ce geste une vingtaine de fois, remontant progressivement le sac, les oiseaux ont enfin eu accès aux déchets qui se trouvaient au fond de la poubelle, jusque-là inaccessibles. Ces corbeaux n'ont fait l'objet d'aucune étude, mais de nombreux comportements remarquables qu'ils ont déployés ici, le travail d'équipe, la patience et l'anticipation, ont été observés chez d'autres corvidés au fil des ans, y compris la technique du tirer, retenir, etc. Et même l'action synchronisée de tirer en coopération pour obtenir de la nourriture. Est-ce que c'est pertinent cependant, dans ce cas précis, de parler de vol de chour, puisqu'il ne s'agit que de déchets ? L'idée de vol est bien présente en marge de ce geste. En fait, une fois les déchets à la portée des becs des oiseaux, l'un des oiseaux se mettait à les trier pour en sortir les restes de nourriture, tandis que l'autre, ou peut-être même un troisième comparse parfois, montait la garde au sol pour veiller à ce que ce festin durement gagné soit pas dérobé par un autre piaf. La possibilité d'un larcin, d'un vol naissant, donc après cette délicate manœuvre, une fois que la nourriture était devenue accessible. Cet espace de rencontre qui semble peut-être trivial, plus quotidien, témoigne de ce qu'est le mode d'existence d'un corbeau. Tandis que ces deux oiseaux montaient consciencieusement la garde, ils montraient à la fois leur capacité à anticiper le vol par d'autres individus, et leur aptitude à s'en prémunir. C'est pas rien en fait, loin de là. À vrai dire, il a même été avancé que ces activités de chapardage et de prévention du chapardage sont en quelque sorte fondamentales au corvidé représentatif de ce qu'il est. La plupart des corbeaux en fait passent a priori le plus clair de leur temps chaque jour à se piller les uns les autres. Il y a des corneilles notamment qui parcourent les plages de l'état de Washington à la recherche de nourriture. Elles le font de manière ciblée et consciente. En observant des groupes de corneilles en quête de coquillages, de vers, de crabes et d'autres mets de choix dans la zone intertidale, il y a René Robinetta A et James A qui se sont aperçus que si certains oiseaux mangeaient que les proies qu'ils avaient eux-mêmes chassées et trouvées, la majorité d'entre eux, des oiseaux, conjuguaient ces activités à des tentatives de détrousser leurs voisins. Il n'y a aucun oiseau, cependant, qui se contentait de voler sans chercher lui aussi de la nourriture. Comme l'explique un des chercheurs, là, les corneilles ne peuvent pas dépendre uniquement du chapardage parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'occasion de voler de gros aliments. Le pillage reste une pratique extrêmement répandue, à tel point que les chercheurs avancent l'idée que ce sont ce brigandage et les activités qui visent à empêcher le pillage plutôt que la peur des prédateurs qui incitent en premier lieu ces corneilles à adopter des comportements de vigilance. Par exemple, elles balayent leur environnement du regard plutôt que de garder les yeux au sol à la recherche de nourriture. Donc les corneilles étudiées avaient également tendance à voler indifféremment à des proches ou à des inconnus, mais elles semblaient adapter leur stratégie. Lorsqu'elle volait de la nourriture d'une parente, la corneille s'approchait silencieusement et soustrayait l'objet de sa convoitise, tandis que si elle allait voler une congénère à la parenté plus éloignée, Elle s'en rapprochait à grand renfort de cris et la poursuivait jusqu'à ce que l'oiseau, pourchassé, lâche sa nourriture. En fait, dans ce contexte, les corneilles, elles s'adonnaient au vol tout d'abord quand l'occasion se présentait ici et là. Mais, et il faut le souligner, les corvidés ne se limitent pas à ce type de chapardage. En plus, ils sont devenus très doués pour piller les cachettes de leurs congénères, où sont dissimulés les petits morceaux de nourriture et d'autres objets entreposés. La plupart des corvidés pratiquent ce système de cachette, notamment les geais qui dissimulent leurs butins saisonniers de glands et d'autres graines, des corneilles de Calédonie qui mettent en sûreté les outils utilisés pour extraire les asticots des troncs et des branches. C'est un délire quand même. Il y a quand même un piaf, il prend un bâton, il n'arrive pas à choper. En fait, il a un tronc, il y a des asticots dedans, il veut bouffer les asticots, il se dit « Ah, j'arrive pas à les attraper ». Du coup, il va chercher un bâton, il choisit bien le bon bâton, il arrive à choper les asticots. Et puis, à la fin, quand il a bouffé ses asticots, il s'est dit « Ouais, le bâton, il a quand même vachement bien marché ». Et il cache le bâton pour plus tard. Et du coup, il y en a qui font ça, et du coup, ils savent très bien que cette dissimulation, que ce soit de biens ou de nourriture, n'a rien d'étonnant étant donné la fréquence des pillages. Et si les corvidés s'aperçoivent qu'ils ont été observés quand ils cachent quelque chose, ils reviendront probablement pour déplacer le contenu de leur cachette à l'abri. Et c'est des opérations cognitives et sociales assez complexes, en fait. Je vous parlais de cognition au début de l'émission. Il semblerait que les corbeaux ne gardent en mémoire pas uniquement leur cachette, mais aussi l'identité des oiseaux qui les ont vus cacher leur butin et à quel endroit. Comme l'ont montré des grands corbeaux, notamment dans une série d'expériences, ils avaient pris soin de repousser les approches d'autres oiseaux qui connaissaient la localisation d'une cachette, sans tenir compte des oiseaux qui n'étaient pas au courant. Il est intéressant de noter aussi qu'une autre expérience, cette fois-ci avec des geais, a montré que seuls les oiseaux qui avaient eux-mêmes volé adoptaient des mesures préventives, ce qui suppose que les geais font un lien entre leur expérience de voleur et la possibilité de se faire voler à l'avenir. Et ils modifient leur stratégie en lien avec leur cachette en conséquence. Autrement dit, l'a dit notre dernier entretien avec une professeure de cognition comparative à l'université de Cambridge, il sait très bien à qui il a affaire. La plupart des études qui portent sur ce comportement, qui consiste à cacher, sont en fait plus précisément des études sur le vol, comment chaparder, comment éviter le pillage de ses propres effets, etc. Ce sujet intéresse particulièrement les biologistes, pas parce qu'ils se passionnent pour la moralité des corvidés, mais parce que ce comportement pourrait indiquer que les corbeaux sont capables d'attribuer à d'autres êtres des états mentaux. C'est-à-dire qu'ils possèdent ce qu'on appelle en biologie une théorie de l'esprit. Par leur comportement, les corbeaux, ils semblent montrer qu'ils comprennent que leurs potes sont des êtres conscients, des êtres dotés de leur propre perception, attention, intention et leur propre croyance même. Voilà, et non content de réagir face à ce que regarde ou fait un autre oiseau, les corbeaux reconnaissent à d'autres des états mentaux, comme le montrent des travaux récents, blablabla. Et deux des principaux laboratoires qui étudient ces interactions complexes entre le chapardage et l'anti-chapardage sont arrivés à des conclusions semblables. Ce comportement peut être le principal facteur de l'évolution de l'intelligence remarquable des corvidés. Et cette possibilité est indissociable du développement d'une mémoire spatiale et observationnelle qui permet aux oiseaux non seulement de retrouver leur propre cachette, mais aussi d'observer l'emplacement de la cachette d'un congénère, de s'en souvenir et d'y retourner plus tard. En fait, c'est bien plus facile de piller une cachette si on a observé et retenu son emplacement que de le faire au moment où l'autre oiseau est en train de cacher ou que de tomber dessus par hasard. La mémoire observationnelle, nécessaire pour se rappeler les emplacements, a sans doute stimulé la complexité cognitive toujours plus importante des stratégies de dissimulation et des tactiques de protection des cachettes, car chaque oiseau est à la fois le protecteur de ses cachettes et un pilleur potentiel d'autres cachettes. Et cette fascinante hypothèse met la dissimulation et le vol au cœur des histoires que nous racontons pour expliquer comment les corbeaux sont devenus ce qu'ils sont. Peut-être c'est le chapardage et sa prévention, plus que tout autre comportement, qui leur ont donné les moyens de vivre des vies cognitives sociales complexes. La conscience des corvidés, en partie tout du moins, est le produit du vol et une préparation au vol. Le vol est au fondement de l'être des corbeaux. plus j'en apprends sur ces activités, plus je trouve le terme vol adapté. Si le mot a sans doute toute une série de significations et de connotations dans divers contextes culturels et aussi biologiques, je crois pas qu'il faille interpréter son application à des activités non humaines comme une projection anthropomorphique. Nous sommes ici dans le même bateau. Les corbeaux ont bel et bien une intuition du vol. Ils comprennent les subtilités sociales, ce qu'il a d'hostile et de raffiné, comment on le commet et comment on s'en protège, et ils savent en tenir compte. Ils volent en connaissance de cause, délibérément, parfois même avec soin. Ils se volent les uns les autres, mais peut-être volent-ils aussi des êtres extérieurs, y compris humains. Je cherche pas à m'engouffrer dans les méandres inutiles de la moralisation qui souvent accompagnent les analyses de cet acte. Je veux plutôt faire voir et faire comprendre d'une nouvelle façon ce qui est rendu possible par le vol. Des modes de vie tout entiers, des façons d'être fascinantes, riches, intelligentes, sont le fruit du vol et ont ainsi été introduits dans notre monde, et c'est peu de le dire, grâce à cet espace et cette pratique si particulière d'être avec les autres.
Recently, the quark has realized that it has reached the limits of its energy.
The quark has resigned itself to the fact that it can only keep the show going if it draws only those entities that are being observed by someone. Under this energy conservation program, the great meadows and mountains are only drawn when there is someone there to look. There is nothing drawn under the sea surface,
where submarines do not travel.
There are no jungles,
where explorers do not probe. As the decline continues, trees will have fewer leaves. Animals will be drawn with less detail.
Someday, you will turn a familiar corner and find buildings missing. At some point, you may look through the missing walls of your bedroom to find your lover only half drawn.
As the quark slows,
its individual pencil strokes will become increasingly sparse,
until the world resembles a cross-hatched woodcut.
The asphalt highways will become a sparse lacing of black strokes, with nothing below but the other side of the planet.
Sparse lacing of black strokes with nothing below. The world's canvas will devolve into a thin sketch of outlines.
The remaining strokes, one by one, will disappear from the lattice work.
One by one.
Drawing the cosmos towards a more complete blankness.
Complete blankness. Blankness.
Ah, les amis, on écoute la zik que j'ai mis là, et la précédente aussi, c'était issue de Faune Radio. Je sais pas si vous connaissez, mais du coup c'est une web radio avec des sons perchés que j'utilise quand même assez régulièrement dans Perche 3000. Et le texte que vous venez d'entendre, franchement, bon, j'avoue, j'avais pas trop préparé la lecture, tout ça, j'ai un peu bafouillé, voilà, et que c'était peut-être un petit peu long et un petit peu dur à la radio, mais c'est trop haut de la balle. Ça s'appelle, donc c'est un extrait de Dans le sillage des corbeaux pour une éthique multispécifique, et c'est de Tom Van Doren, un Australien, je crois. Et du coup, j'adore parce que franchement, que ça parle du vol comme ça, je trouve c'est de la balle. Et du coup, ça prend l'exemple de ces oiseaux là, et bah voilà, c'est juste trop bien, c'est juste trop bien. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi, je kiffe toute cette réflexion-là. Et d'ailleurs, je peux vous conseiller hein, ce bouquin. Ça fait partie d'une collection. Bon, c'est paru chez Actes Sud. Ça fait un peu chier de faire de la pub pour des grosses maisons d'édition. Mais en tout cas, ils ont une collection qui s'appelle Monde Sauvage au pluriel. Et franchement, j'en ai lu 3 ou 4 de la collection. Et c'est trop de la balle. En comptant celui-là que j'ai pas... Je suis au début. Ah. Alors, je vous ai promis en début d'émission... qu'on allait parler de la plus grande réalisation de l'humanité. On va en parler. On va même faire plus qu'en parler, on va plonger dedans. Ouais, c'est un délire ce que je vous promets quand même. Restez bien branchés. On écoute un peu de Zik et je reviens juste derrière. H3000 sur Radio Galère 88.4. Voilà, c'est la plus grande invention, la plus grande création, la plus grande réalisation, on va dire plutôt, de l'histoire de l'humanité, selon moi. C'est simplement, bon, ça va peut-être vous décevoir un petit peu, parce que c'est. Mais non, moi, ça peut pas être décevant, vraiment. En fait, c'est Wikipédia. Wikipédia, c'est quand même un grand délire, ce truc. La plus grande encyclopédie déjà de l'histoire de l'humanité, déjà, bon, voilà, déjà ça c'est first, voilà, dans un nombre de langues incalculable, je sais pas combien il y a de langues, il y a peut-être 2000 langues, je sais pas combien, alors il y a que 200 pays hein, dans le monde, hein, mais je sais plus combien de langues il y a, bon après c'est pas la plus grande encyclopédie forcément dans toutes les langues, mais en tout cas, en anglais, de très loin, l'encyclopédie la plus grande, la plus complète. De 3, citez-moi un seul site internet qui ne fait pas d'argent et qui est connu comme Wikipédia. Il n'y en a pas, cherchez pas plus, il n'y en a pas. C'est un des plus grands, c'est le site le plus visité qui ne fait pas de pub. Qu'est-ce que j'allais dire de 4 ? Bah voilà, genre juste... Ah oui, le de 4, c'est participatif. Genre, c'est pas des gens qui nous disent, qui écrivent un livre, qui écrivent une encyclopédie, et tout le monde fait « Ah oui, d'accord, l'histoire de la France, c'est ça. » Et tout le monde fait « Ah oui, d'accord, nanani, c'est ça. Ah oui, d'accord. » Non, c'est pas ça. C'est participatif. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui écrit de la merde, quelqu'un va lire de la merde, il va dire « C'est de la merde. » Et s'il y a 2-3 personnes qui disent que c'est de la merde, et ben du coup, hop, ça se... Tchic-tchic, il corrige, et c'est participatif. Moi, je vous invite... à participer à l'écriture de Wikipédia. Ça peut être juste d'écrire, de corriger des petites fautes dans un article que vous êtes en train de lire. Ça peut être juste de remettre de l'ordre dans un article que vous aimez bien. Imaginons, vous êtes passionné, je sais pas, de Fortnite. Vous lisez l'article de Fortnite sur Wikipédia et il y a des trucs que vous pouvez rajouter. Eh ben allez-y, rajoutez-les. C'est hyper, en vrai, c'est hyper fort, c'est hyper bien, c'est hyper important. Et en vrai, ça fait plaisir aussi de partager un peu des trucs qu'on connaît parfois. Et imagine, t'es passionné de, je sais pas moi, de couture, et hop, tu vas aller lire le truc, j'en sais rien. En tout cas, la prochaine fois que tu consultes Wikipédia, tu lis un article, s'il y a une faute d'orthographe, un truc, une phrase qui est mal écrite, un anani, plutôt que de dire « Ah, oh, Wikipédia, franchement, il y a des fautes d'orthographe dedans. » Mais vas-y, corrige-la, et comme ça, après, il n'y a personne qui va dire de cet article qu'il y avait une faute d'orthographe dedans, puisqu'elle n'existera plus. Et donc si t'as la flemme de faire ça mais que t'as de la thune, n'hésite pas à donner de la thune à Wikipédia. Au moins ça servira à quelque chose de cool. Après tu peux aussi la donner à des galériennes, des galériens. Tu peux en faire plein de choses de ta thune, mais Wikipédia, ben voilà, tu participeras à la plus grande réalisation de l'histoire de l'humanité, à mon sens. Bon, ouais, voilà. Et puis comme j'ai un peu... Bon, bref, ouais, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Alors du coup, c'est bien beau d'en parler, mais moi, je voulais revenir un petit peu sur d'autres trucs, et notamment, je voulais vous parler de Radio Galère. Alors, attends, j'ai perdu mon feu. Attendez deux secondes. Hop, voilà, j'ai retrouvé mon briquet. Radio Galère, vous le savez, tient une ligne antiraciste, antisexiste, contre toutes les formes de domination, que ce soit la transphobie, le validisme, le classisme, voilà, toutes les formes de domination, l'homophobie. Et notamment, elle porte aussi des discours anticoloniaux. Et moi, je voulais vous lire des articles Wikipédia. Alors, ce qu'on va faire, on va se donner un petit quart d'heure, là, et on va divaguer dans Wikipédia. J'adore faire ça. Moi, j'adore faire ça. J'ouvre un article. Et bon, là, j'ai préparé un petit peu. Normalement, il n'y a pas de préparation dans cette émission, mais j'avais déjà ouvert un article. Et je voulais vous parler de qu'est-ce que c'est qu'une colonie. Et vous le savez, en écoutant cette émission, si vous avez déjà écouté une émission de Perche 3000, vous savez que j'aime bien les animaux. Et en tout cas, j'aime bien les trucs vivants de manière générale. Et donc, il y a une définition d'une colonie que j'aime beaucoup, c'est la colonie de la biologie. Bon voilà, je vais vous lire un peu des articles, je vais cliquer sur des trucs et puis on verra bien. En biologie, une colonie, c'est un groupe d'organismes individuels appartenant à la même espèce. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Ils vivent rassemblés avec un mode de vie particulier. En général, la vie en colonie apporte aux organismes des avantages, tels que des défenses plus fortes, la possibilité de s'attaquer à des proies plus importantes, etc. Il y a des insectes, comme les fourmis et les abeilles, par exemple, qui vivent que en colonie. Et une espèce de cnidaire, donc les cnidaires, c'est des sortes de, je sais pas, il y a les méduses, les trucs dans le genre. Il y a la galère portugaise, donc c'est une sorte de petite méduse, qui est un exemple de colonie formée de quatre types de polypes différents. Bon, alors, les polypes, c'est... Bon, ouais, voilà, on s'en fout. Une colonie d'organismes monocellulaires, c'est là que ça devient un petit peu intéressant, parce que nous, vous le savez, on est fait de cellules, il y a plein de cellules. Après, quand on fait un groupe d'animaux qui ont plein de cellules, bah, ça fait un groupe d'animaux qui ont plein de cellules. Mais par contre, quand il y a des animaux qui n'ont qu'une seule cellule et qui font un groupe, est-ce que ça fait un animal qui a plein de cellules ou est-ce que ça fait une colonie d'animaux qui n'ont qu'une seule cellule? Comment ça se passe? Une colonie d'organismes monocellulaires est aussi appelée un organisme colonial. Haha, ça fait peur. L'organisme colonial, c'est probablablement la première étape qui a existé vers la constitution d'organismes multicellulaires au cours de l'évolution. Bon, vous savez que d'abord, la vie, elle a commencé avec des trucs le plus simple possible, et donc l'unicellularité, c'était le truc le plus simple possible. Et puis en fait, là, on dit que l'organisme colonial, c'était probablement la première étape pour faire des organismes avec plusieurs cellules. La différence entre un organisme multicellulaire et un organisme colonial fait de plein de petites cellules individuelles, c'est que les organismes individuels appartenant à une colonie sont capables de survivre par eux-mêmes s'ils en sont séparés. Ce qui n'est pas possible pour les cellules d'un organisme multicellulaire. Genre, on vous coupe en morceaux, ça ne marche pas. On coupe un organisme colonial en morceaux, a priori, ça marche. Les algues de type Volvox sont un exemple de cas limite entre ces deux situations. Bah oui, parce que nous, on est malins, les humains, on fait « Ouais, quand c'est comme ça, on va dire que c'est comme ça, et quand c'est comme ci, on va dire que c'est comme ci. » Oui, mais en fait, le problème, c'est que c'est jamais tout comme ci ou tout comme ça. Tout ce qui est binaire est fait pour être détruit, puisque c'est des projections de l'esprit, que ce soit d'un esprit seul ou de... Bon bref, là, je m'égare un peu. Et j'ai parlé de Volvox, qui est en fait à mi-chemin entre un organisme multicellulaire et une colonie d'organismes unicellulaires. Le Volvox, c'est un genre d'algue verte de la famille des Volvocacées. Les Volvox sont des colonies sphériques constituées d'organismes unicellulaires, flagellés, entourés de gangues gélatineuses, entourés par des cellules superficielles biflagellées et unies entre elles par des connexions cytoplasmiques. À l'intérieur de la colonie existent de multiples aux spores. Ils sont constitués d'une unique cellule. les Volvox se maintiennent à la surface de l'eau, pouvant ainsi pratiquer la photosynthèse. Wait. On est en train de parler. Alors attends. Déjà, Volvox, ça s'écrit V-O-L-V-O-X. Déjà, c'est un nom tellement chelou. En fait, c'est un tout petit truc, quoi. Ça, je sais pas combien de diamètre ça doit faire. En tout cas, c'est tout petit. Et ça fait une sorte de sphère. Et la sphère, elle est constituée de plein de petites trucs, quoi. Des os. Non, c'est pas ça. C'est des colonies. Il y a plein de petites cellules, quoi, on va dire. C'est ça. Donc, il y a plein de petites cellules, mais en fait, voilà, qui se collent entre elles et qui font une sorte de sphère. Tu vois le truc. Mais comme c'est des toutes petites cellules qui font des sphères et puis qu'elles se tiennent entre eux avec des petites papates, là, bah on voit à travers, puisque voilà, ça fait comme un maillage quoi, de cellules qui font une sphère. Et à l'intérieur de cette sphère, il y a des petites boules qui sont des petits organismes unicellulaires là, avec des petites flagelles autour. Et donc ça, ça grandit. Ça se reproduit, et la grande sphère, elle grandit. Et après, il y a de plus en plus de petites boules à l'intérieur. Et à un moment donné, la grande sphère, elle se casse un peu en petits morceaux et elle se dissout. Et en fait, le truc, les petites boules au milieu, elles grandissent comme des grandes sphères. Et puis ça fait des grandes sphères. Et c'est un délire, parce qu'en fait, tu coupes le truc en deux, les petites flagelles, là, les petites machins et les petites cellules, elles ne meurent pas. En fait, c'est des sortes de colonies et c'est des sortes d'organismes, c'est un peu entre les deux. Moi, je trouve ça assez stylé. Alors, on peut venir à l'organisme, un organisme multicellulaire, c'est un organisme vivant qui fait de plusieurs cellules. Bon, ça, on le sait. Ça peut être les mêmes cellules, les unes les autres, ça peut être des cellules différentes, comme par exemple les êtres humains, mais les plantes aussi, ça marche. Enfin, bon, bref, je vous passe les détails. Voilà, en général, tout ce qui peut être vu à l'œil nu, c'est habituellement des organismes multicellulaires. Mais après, il y a certains organismes unicellulaires qui sont également visibles à l'œil nu sans utiliser le microscope, genre des espèces de champignons, les myxomycètes. Et un groupe de cellules semblables qui assure une fonction au sein d'un organisme multicellulaire est appelé un tissu. Et jusqu'en 2010, le plus ancien organisme multicellulaire connu, donc c'était quand qu'il y avait le premier organisme multicellulaire, c'était une algue rouge jusqu'en 2010, qui s'appelait Bangiomorpha pubescens. Elle a été trouvée fossilisée dans les roches de la période géologique de l'Ectasien, datant de 1,2 milliard d'années. Donc on s'est dit, jusqu'en 2010, tous les gens ils se disaient plutôt, bon, ça fait 5 milliards d'années que la Terre elle existe, ça fait un peu plus d'un milliard d'années que les êtres vivants multicellulaires existent. Et avant, c'était de l'unicellulaire. Mais un groupe fossile d'organismes multicellulaires a été découvert en 2010 dans des sédiments au Gabon, qui ont repoussé l'apparition des premiers organismes multicellulaires à plus de 2,1 milliards d'années. Ce qui a été confirmé en 2014 par les chercheurs. Et donc ça a été un peu plus un milliard d'années, on apprend des trucs. Ça c'était en 2010, donc petite avancée, on va dire, dans la connaissance, hein. Jusque là on se disait que ça fait un milliard d'années, puis finalement ça fait un peu plus. Bon, voilà, alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon, là, j'ai cliqué sur un lien. Les insectes sociaux, c'est des insectes qui vivent et s'organisent en colonies et démontrent une intelligence collective. Tiens, si on cliquait sur intelligence collective. L'intelligence collective se manifeste par le fait qu'une équipe d'agents coopérants peut résoudre des problèmes plus efficacement que lorsque ces agents travaillent seuls. Le concept d'intelligence collective a été mobilisé pour aborder des collectifs d'agents très divers, des insectes vivant en colonie, des équipes d'humains, des robots collaboratifs, bien que dans ce dernier cas, il conviendrait plutôt de parler d'intelligence distribuée. L'intelligence collective, selon Pierre Lévy, c'est une intelligence partout distribuée, sans cesse valorisée, bon ça on s'en fout, elle résulte entre autres de la qualité des interactions entre ses membres. L'intelligence collective est étudiée en sociobiologie, en sciences politiques et dans le contexte de l'étude des performances de systèmes sociotechniques tels que les applications de la production participative. Ouh, ça fait flipper ça. L'intelligence collective a également été attribuée et étudiée chez les animaux et des organismes aussi simples que des bactéries. il semblerait qu'on soit un peu plus con que ce qu'on imaginait quand on se compare aux autres. L'intelligence est partout. Et voilà. Bon, je pensais que ça allait être un peu plus pim-pam, rebondir et tout. En fait, c'est pas si facile de faire ça à la radio. J'aurais dû peut-être m'entraîner avant, ça aurait été probablement une très bonne idée. Voilà, on va arriver un petit peu sur la fin de l'émission. J'ai encore un petit truc ou deux à vous faire, mais on va s'écouter un peu de musique. John Hopkins, Water. Encore un truc chelou. Ah, cherchez pas. Ça. Imaginez que vous avez 1 million de boîtes et une seule de ces boîtes contient un diamant. Merde. Mais tu le sais, il y en a une qui contient un diamant. Et vous avez un carton plein de détecteurs de diamants. Pas mal, pratique, on va dire. Et chaque détecteur de diamant s'allume toujours en présence d'un diamant, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il s'allume une fois sur deux lorsqu'il est mis à côté d'une boîte vide. Ça, c'est un peu chiant parce que du coup, tu essaies de détecter s'il y a un diamant. S'il y a un diamant, il s'allume toujours. S'il n'y a pas de diamant, parfois il s'allume, parfois il ne s'allume pas. Ok. Si on passe 20 détecteurs sur chacune des boîtes, en moyenne, on va se retrouver avec une fausse boîte candidate et une vraie boîte candidate. Ensuite, il vous suffirait que un ou deux détecteurs de plus avant de vous retrouver uniquement avec le vrai candidat. En fait, l'idée, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de réponses possibles, la plupart des informations dont on a besoin servent à localiser la bonne hypothèse parmi les millions de possibilités, à attirer votre attention vers elle. En comparaison, la quantité d'informations nécessaires à choisir entre 2 ou 3 candidats plausibles est bien plus petite. Donc, si on fonce sans aucune preuve et qu'on place une possibilité en particulier au centre de votre attention, vous sautez le plus gros du travail. Par exemple, vous vivez dans une ville avec 1 million d'habitants. On imagine qu'il y a un meurtre. Il y a un détective qui cherche qui c'est qui a tué qui, enfin qui c'est qui est le meurtrier. Bon, on n'a aucune preuve. Alors, est-ce qu'on a imaginé que c'était Martin qui a fait le coup ? Plus tard, on apprend que le meurtrier a les cheveux noirs. Il s'avère que Martin a les cheveux noirs. Donc tout le monde est là. Ah, on dirait qu'après tout, c'est bien Martin qui a fait le coup. Mais c'est injuste pour Martin que les enquêteuristes le placent au centre de son attention sans déjà avoir de bonnes raisons de le soupçonner. Lorsqu'il y a beaucoup de possibilités, le plus gros du travail consiste à localiser la bonne réponse, à commencer à y faire attention. Vous n'avez pas besoin de preuves comme celles requises par la science ou par les tribunaux, mais il vous faut une sorte d'indice, une piste, quoi. Et cet indice doit établir une distinction entre une possibilité en particulier et les millions d'autres. Sans ça, vous ne pouvez pas juste sortir la bonne réponse de nulle part. Vous ne pouvez même pas sortir une possibilité méritant qu'on s'y attarde de nulle part. Ce n'est pas parce que j'ignore des choses au sujet de l'univers que je suis incertain au sujet de la façon dont je devrais raisonner lorsque je sais que j'ignore quelque chose. Les lois qui régissent le raisonnement probabiliste ne sont pas moins trempées dans l'acier que les lois qui gouvernent la bonne vieille logique. C'est tiré de Harry Potter et les méthodes de la rationalité, wesh. C'était la dédicace que je faisais en début d'émission, on va se quitter là-dessus. Harry Potter et les méthodes de la rationalité, c'est une fanfic qui a été écrite par... attendez, je vais retrouver l'auteur... Eliezer Yudowski. C'est assez stylé. On fait un gros big up à la personne qui m'a mis ça entre les mains. Vous pouvez le trouver sur internet en français, en PDF. Voilà, c'est une traduction qui est un peu moyenne, mais ça va, on arrive quand même à bien la lire. L'histoire est assez stylée. Le pitch, c'est que c'est Harry Potter, mais avec un autre Harry Potter. C'est-à-dire que le seul personnage qui change vraiment, dont la personnalité change vraiment, c'est Harry Potter, et tous les autres personnages, ils existent plus ou moins. Alors certains disparaissent, d'autres sont plus mis en avant, etc. Mais ils sont conformes un peu à ce qu'ils étaient dans le vrai Harry Potter. Et donc c'est quand même un bon délire à lire. Bon, je vous préviens, ça fait 1900 pages, hein, on parle quand même de Harry Potter, donc je sais pas, ouais, j'en sais rien, moi la série, la vraie série de bouquins, elle doit faire 4000 pages, 5000 pages, j'en sais rien combien. Donc là c'est un peu plus court, mais c'est quand même un gros morceau. Et bon, pour l'instant moi j'en suis au quart, donc voilà, hein, je vous fais un peu plus, même je vous fais de la pub pour ce truc, mais je sais pas comment ça se finit pour l'instant. Mais on m'a dit que c'était bien. Harry Potter et les méthodes de la rationalité, et le texte que je vous ai lu, c'est... Pour celles et ceux qui connaissent, c'est quand même Harry Potter qui fait un cours de rationalité à Dumbledore. C'est assez croustillant. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus, les amis. On se retrouve là dans 15 jours. Promis, ou je sais pas, je suis en train de promettre des trucs, ça se trouve, je vais pas tenir du tout. Mais en tout cas, si, vas-y, promis, il y aura une émission dans 15 jours. Je sais pas si je serai en direct à la radio, tout à tout. Mais il y aura une émission. Perche 3000, c'est une émission où on improvise un peu, on fait des expériences, on essaye des trucs, on diffuse de la musique bizarre, on passe des cassettes, des bandes de films, des bandes son de films, des lectures, des trucs chelous. Et c'est une fois tous les 15 jours. Et c'est jamais préparé, comme ça au moins ça laisse place à l'improvisation et au direct. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à dans 15 jours, restez bien branchés sur le 88.4, c'est Radio Galère. Et on s'écoute quoi? On s'écoute G-Force avec How Long. Ciao ciao, bisous les amis, bonne soirée à toutes et à tous.